il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
Philippe Le Caplain.
Le décryptage de la vie politique en France, c'est maintenant sur RFI et c'est avec vous, Mathieu Gallard. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur d'études chez Ipsos, l'Institut de sondage. Nicolas Sarkozy ne pourra plus arborer la Légion d'honneur ni l'Ordre national du mérite à la boutonnière de sa veste. C'est ce qui ressort d'un arrêté publié par le Journal officiel, conséquence de la condamnation de l'ancien président de la République à une peine de prison dans l'affaire dite des écoutes. Celui-ci prend acte et sur France Inter, son fils, Louis Sarkozy, disait cela tout à l'heure.
Père la conteste juridiquement puisqu'il y a aujourd'hui une procédure en cours à la Cour européenne des droits de l'homme et que le souhait de Nicolas Sarkozy c'est que la vérité triomphe et il est confiant qu'un jour effectivement elle triomphera. Donc la Cour européenne des droits de l'homme va se déclarer sur cette condamnation et si sa déclaration s'ajoute à une condamnation de la France, bien sûr la Légion d'honneur lui sera restituée. Le président Jacques Chirac lui remet la Légion d'honneur suite à sa participation à la prise d'otage de HB à Neuilly. En 1993,
Human Bomb.
Et à tous ces détracteurs et à tous ces critiques, aujourd'hui, je leur souhaite un centième, si ce n'est un millième, de son courage dans cet acte.
Emmanuel Macron avait dit son opposition à cette sanction, expliquant que les anciens présidents doivent être respectés. Mais le chef de l'État, même s'il est détenteur du titre de grand maître de la Légion d'honneur, n'a pas pu intervenir dans cette procédure. Membre du parti présidentiel Renaissance, Roland Lescure, vice-président de l'Assemblée nationale, se démarque toutefois de l'Élysée.
Dur à l'ex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi et elle s'applique à tout le monde.
Et cette formule est reprise par le sénateur socialiste Patrick Kanner.
C'est une décision logique, puisque le code de la Légion d'honneur, il y a un code, prévoit que pour les condamner à une peine de plus d'un an sans sursis, eh bien, il faut rendre sa Légion d'honneur. Donc le président de la République actuel trouvait à titre personnel que bon, ce serait dommage, mais dur à l'ex et de l'ex, la loi est la loi, même pour Nicolas Sarkozy. C'est une décision administrative, c'est une décision politique, et permettez-moi de dire que c'est aussi une décision morale, parce que la probité, l'exemplarité quand on est président de la République ou ancien président de la République est quand même un élément majeur. Donc une décision pour moi qui est totalement logique et qu'il faut respecter.
Autre socialiste, mais beaucoup plus réservé, l'ancien Premier ministre, qu'est Bernard Cazeneuve, sur France Inter, à midi.
Je ne me réjouis jamais de ce qui peut atteindre mes adversaires politiques dès lors qu'on est sur le terrain judiciaire. Pourquoi ? Parce que je pense que les batailles politiques ne se mènent pas sur ce terrain-là. On est dans un contexte aujourd'hui de perte de confiance, on est dans un contexte de radicalisation de la vie politique et par conséquent, lorsque des événements de ce type se produisent, la sobriété du commentaire s'impose.
Aux extrêmes maintenant, ce que dit tout d'abord Éric Zemmour, président du parti Reconquête sur France 3.
Moi je ne suis ni l'avocat ni le procureur de Nicolas Sarkozy.
Non mais vous avez
Je pense qu'il a été président de la République, il a incarné la France. Quoi qu'il ait fait, je ne connais pas le détail de l'affaire, je ne souhaite pas qu'une humiliation soit rajoutée à sa paix.
À l'opposé, la position de Manuel Bompard, coordinateur national de LFI, député des Bouches-du-Rhône sur BFM TV.
J'ai entendu des réactions outrées d'un certain nombre de personnages politiques de droite et je crois qu'ils doivent mesurer que les Françaises et les Français, ils ont beaucoup de mal à comprendre que, en quelque sorte, la justice devrait s'appliquer de manière différente en fonction des gens et que pour M. Sarkozy ou Mme Le Pen, il y aurait des règles particulières et puis pour l'ensemble des Françaises et des Français, il y aurait les règles du droit commun. Parce que j'entends beaucoup la droite dire qu'il faut plus de fermeté, que la justice est trop laxiste, etc. Bizarrement, ils n'appliquent pas le même principe quand ça concerne M. Sarkozy ou Mme Le Pen. Donc alors, un petit peu de cohérence, c'est mieux.
Mathieu Gallard, d'Ipsos, votre commentaire à cet argument de Manuel Bompard ?
Je pense que cet argument-là, il répond effectivement en partie à la perception que peuvent avoir les Français vis-à-vis de ce type de décision judiciaire. On sait globalement que les Français aujourd'hui jugent que le système judiciaire, il fonctionne mal. Il y a plusieurs dimensions à ça. Ils estiment que le système judiciaire, il est trop lent. Ils estiment qu'il est opaque, mais ils estiment aussi qu'il y a une forme parfois d'inégalité dans les décisions qui peuvent être prises et que effectivement, si vous appartenez, on va dire, aux élites, qu'elles soient politiques ou économiques, vous allez peut-être être jugé de manière un peu différente. Et donc, il y a une attente, effectivement, de fermeté de la part de la justice envers les dirigeants politiques. Et je pense que dans la situation qui est celle de Nicolas Sarkozy, l'opinion globalement approuvera plutôt cette décision, même si, comme par exemple au moment de la décision judiciaire à l'égard de Marine Le Pen, en fait, ça n'est pas un jugement qu'on va porter sur le fond du dossier, c'est avant tout un jugement qu'on va porter sur la personne qui est jugée.
Quelle est l'image que les Français ont encore de Nicolas Sarkozy? Qu'est-ce qu'ils vous disent?
Alors, c'est vrai que quand on interroge les Français, on a une image qui est en fait assez différente de celle qui peut être imaginée dans le débat public par un certain nombre d'experts, de journalistes, voire même par les dirigeants de la droite actuelle. On a encore le sentiment parfois que Nicolas Sarkozy, parce que évidemment c'est le dernier président de la droite républicaine à avoir été élu en 2007, il dispose encore au sein, en tout cas de cet électorat, d'une aura très forte, d'une présence très forte et qu'il peut avoir un pouvoir d'influence extrêmement marqué. C'est pas si vrai que ça. On a vu au cours des années que son poids, son influence, elle avait vraiment diminué parce que Nicolas Sarkozy, pendant quelques temps, s'est un petit peu rapproché d'Emmanuel Macron parce qu'il n'a pas soutenu notamment Valérie Pécresse pendant l'élection présidentielle de 2022. Il a pu susciter un certain nombre de déceptions auprès pourtant d'un électorat de droite classique qui était très attaché à lui. Et puis, rappelons-nous tout simplement, la dernière fois que véritablement il s'est plongé directement dans l'arène politique, c'était lors des primaires de 2016 pour être le candidat de la droite en vue de la présidentielle de 2017. Il était arrivé en troisième position. Donc ça fait longtemps malgré tout qu'il ne suscite plus cet engouement au sein de l'électorat de droite qui était pourtant là entre 2007 et 2012.
Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI. Le congrès du Parti Socialiste qui se tenait ce week-end à Nancy prend fin sur un constat d'échec à rassembler les socialistes sur un texte de synthèse. Les négociations entre la direction du premier secrétaire Olivier Faure et ses opposants réunis autour du maire de Rouen, Nicolas Maillère-Rossignol, ont échoué. La faute à la stratégie adoptée par rapport à LFI Valérie Gasse.
Se rejeter la responsabilité de l'échec des négociations sur un accord pour la gouvernance du parti, c'est ce que les partisans de Nicolas Maillère-Rossignol et Olivier Faure ont tenté de faire ce matin. Pour le maire de Rouen, Olivier Faure n'a pas voulu rassembler les socialistes en rejetant une proposition de compromis.
Nous avons proposé un amendement. Nous ne ferons pas d'accord national et programmatique aux législatives avec la France insoumise.
Avec le rejet de cet amendement, le député Philippe Brun estime que les masques sont tombé.
C'est donc la preuve que rien n'est tranché et qu'Olivier Faure, finalement, a obtenu cette victoire en omettant une partie de ses intentions aux militants.
Une accusation de mauvaise foi rejetée par la direction du PS où les lieutenants d'Olivier Faure se sont démultipliés pour avancer des contre-arguments. Leur objectif, sortir de ce congrès avec un PS qui avance pour construire le rassemblement de la gauche, de Raphaël Glucksmann jusqu'à François Ruffin et pas jusqu'au centre. Arrêtons de regarder dans le rétroviseur, clame-t-il en accusant les opposants de prendre des prétextes pour faire entendre leur voix. Dans le camp du premier secrétaire, on affirme que la ligne est tranchée et qu'on préfère pas de synthèse à une synthèse molle. Le congrès de Nancy aura été un congrès apaisé, mais pas rassemblé. Valérie Gasse, Nancy, RFI.
Et Olivier Faure, réélu de justesse à la tête du parti, a bien sûr pris la parole lors de ce congrès.
Certains ont la tentation de faire de ce congrès un référendum pour ou contre LFI. Je leur dis simplement que tant qu'ils auront pour unique obsession LFI, ils ne feront que témoigner de la domination psychologique que la gauche radicale exerce sur eux. Un grand parti socialiste ne s'abaisse pas à la polémique permanente avec la gauche. Il prend le leadership face à la droite, face à l'extrême droite.
Bernard Cazeneuve, lui, ancien Premier ministre socialiste, a ce message à l'endroit du chef du PS, à l'endroit d'Olivier Faure, justement.
Je dis à Olivier Faure, rompez avec la France insoumise, de rassembler tous les socialistes et sociodémocrates, ceux qui sont à l'intérieur du Parti socialiste et ceux qui sont à l'extérieur, et faites du Parti socialiste une grande force de transformation.
Alors,
de
ça,
la société
c'est le vœu
et de
gouvernement.
Faux. Dès lors que le Parti socialiste n'arrive pas à sortir de la relation tumultueuse et très invalidante qu'il entretient avec la France insoumise, essayer de faire pression sur lui de l'extérieur pour qu'il finisse par s'y résoudre.
Alors la France insoumise est visée, elle ne veut pas s'en laisser compter. Manuel Bompard, député des Bouches-du-Rhône, n'entend pas infléchir la stratégie de son parti.
La France insoumise, elle se prépare à mener ses campagnes municipales qui vont avoir lieu dans un an. Parce que vous savez, la question des élections municipales, c'est pas une question politicienne. C'est une question de contenu, de choses qu'on peut changer, transformer dans la vie des gens. Moi, je veux bien que dorénavant, la politique pour le Parti Socialiste, elle soit résumée uniquement à la question des accords politiciens, mais c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est comment vous pouvez avoir des listes qui gagnent dans des villes, par exemple, pour faire en sorte que le petit déjeuner soit gratuit pour tous les enfants.
Est-ce que vous présenterez des candidats LFI, des listes LFI dans les villes que dirige le PS?
Et évidemment que la France Insoumise, elle sera présente aux élections municipales et que dans les villes dirigé aujourd'hui par le Parti Socialiste et qu'ils ne mettent pas en place le programme dont je suis en train de vous parler, il y aura d'autres listes.
Mathieu Gallard de l'Ipsos, on a le sentiment que ce que doit faire le PS avec LFI, c'est véritablement l'équivalent du sparadrap du capitaine Haddock. Faut-il l'enlever ou pas l'enlever ?
Oui, alors ma première observation là par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre, c'est quand même que c'est une séquence qui est un petit peu ratée pour le Parti Socialiste, parce que les Français auraient besoin de l'entendre avant tout parler du fond, du programme, de sa vision pour le pays en vue de 2027 notamment. Et là, c'est vrai qu'on ne parle que de sa stratégie d'alliance ou non avec la France Insoumise. Donc c'est vrai que c'est un petit peu ennuyeux pour le parti. Après, je ne lui en fais pas le reproche, tout simplement parce qu'il est toujours renvoyé à cette question et parce que c'était un objet évidemment de débat interne majeur entre Olivier Faure.
Ça traduit quand même le positionnement du PS. Est-ce qu'il doit être résolument à gauche ou être social-démocrate comme il l'a été?
Exactement, et c'est très compliqué à répondre, effectivement. Alors maintenant, la question, c'est de savoir, effectivement, du point de vue purement stratégique, que doit faire le Parti Socialiste? Et là encore, il n'y a pas une réponse qui est claire. Ceux qui nous disent le Parti Socialiste doit véritablement rompre les liens avec la France Insoumise ont beau jeu de le dire actuellement. Si, dans quelques mois, il y a une dissolution et des élections législatives par un parti socialiste seul, il sera véritablement balayé en termes d'élus. Il perdra de très nombreux élus. Mais en revanche, c'est vrai que quand on se place dans l'optique de l'élection présidentielle, le Parti Socialiste, là, a tout intérêt à sans doute pouvoir présenter un candidat, alors qu'il soit élu de ses propres rangs ou peut-être plus largement d'une famille de centre-gauche, pour effectivement pouvoir faire le contrepoids vis-à-vis de la France Insoumise.
Bah là aussi, il y a polémique, puisque pour la présidentielle, il y a cet affrontement au sein du PS. Olivier Faure veut une primaire allant de Glucksmann à Ruffin, et son opposant Nicolas Mayer-Rossignol, qui vient d'échouer donc de peu à prendre sa place, n'en veut pas.
Effectivement, on voyait que Nicolas Mayer-Rossignol, lui, il faisait campagne pour qu'il y ait, quoi qu'il en soit, lors de la présidentielle de 2027, un candidat socialiste qui soit présent. Donc que le parti présente son propre candidat issu de ses rangs. Effectivement, pour le coup, Olivier Faure avait une attitude sans doute un petit peu plus souple et plus conciliante vis-à-vis des autres familles de la gauche, qu'il s'agisse des écologistes et des communistes notamment, ou potentiellement vis-à-vis aussi de ce qu'on appelle les purgés de la France insoumise, François Ruffin, Clémentine Autain, etc. Pour organiser une grande primaire de cet espace politique plus d'une gauche plus modérée, d'une gauche plus centrale, afin d'avoir un candidat qui... bénéficiant déjà de l'appui de partis autres que le Parti Socialiste et puis d'un électorat potentiel plus large, pourrait peut-être égaler, talonner, peut-être dépasser Jean-Luc Mélenchon dans le cadre d'une présidentielle en 2027. C'est effectivement un combat stratégique qui s'est mené au cours des derniers mois dans le Parti Socialiste et que Olivier Faure semble avoir gagné.
Ça, c'est la présidentielle. Vous avez évoqué d'éventuelles législatives en cas de dissolution. Puis il y a les municipales. C'est pile dans un an. Est-ce que le Parti Socialiste prend le risque de perdre des mairies en ne s'associant plus à LFI ?
Alors, tout dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle du premier tour où, par exemple, là où il y a des maires socialistes sortants, les insoumis pourraient présenter des listes, voire même les écologistes. Par exemple, c'est le cas à Paris. Il y aura une liste socialiste, une liste écologiste, une liste insoumise, très probablement en tout cas. Ça peut être un handicap pour le Parti Socialiste, parce que effectivement, ça peut rendre les choses un peu plus complexes au second tour, mais ça n'obère pas ses chances de l'emporter, d'être réélu dans les mairies où il est sortant. Ce qui, en revanche, sera véritablement une véritable difficulté majeure, c'est si les insoumis parviennent à pouvoir se maintenir au second tour dans ce type de ville et le font, se maintiennent. Du coup, là, effectivement, le Parti Socialiste pourrait perdre de très nombreuses villes. Mais je pense que, dans ce cas-là, le Parti Socialiste entre les deux tours, voilà, sera dans une attitude sans doute beaucoup plus souple vis-à-vis des insoumis.
Plus largement, pour se refaire une santé, le Parti Socialiste peut-il espérer une réforme de scrutin? Qu'est-ce qu'il peut espérer d'une réforme de scrutin qui irait vers l'introduction d'une dose de proportionnelle?
Oui, c'est le serpent de mer. Alors, la grande difficulté, c'est que la proportionnelle, ça ne veut pas dire grand-chose et il y a de multiples formes de proportionnelle, déjà. Donc, vers laquelle pourrait s'orienter le gouvernement, ça n'est pas encore parfaitement clair. Après, là encore, en tant que tel, la proportionnelle, c'est simplement traduire les voix des électeurs en sièges pour les partis. Un parti socialiste qui parvient à faire, mettons, environ 8-10% des voix, il resterait probablement assez stable par rapport à ce qui s'est passé lors de l'élection législative de 2024. Mais ce qui changerait tout pour le Parti socialiste, c'est qu'il n'aurait pas besoin de faire une alliance avec les autres formations de la gauche, et notamment avec les insoumis, et que donc il serait beaucoup plus libre de ses stratégies, pourquoi pas d'accord ponctuel sans doute, avec les macronistes sur un certain nombre de points, et il aurait peut-être plus de latitude du coup pour influencer la Macronie.
Philippe Le Caplain. L'actualité en France a essentiellement été tournée cette semaine sur ce qui est arrivé, dans un établissement scolaire de Haute-Marne quand un ado de 14 ans a tué froidement une jeune surveillante. Un gamin sans histoire jusque-là, bon élève, pas vrillé par les réseaux sociaux. Comment réagir? Il a été question de portiques de sécurité à l'entrée des écoles ou encore d'interdiction des réseaux sociaux aux enfants. Écoutez ce qu'en pense Manuel Bompard de LFI.
Cette proposition, je pense qu'elle est à côté de la plaque précisément parce qu'elle est irréalisable, parce que tout le monde sait que ça pourra être très largement contourné. Donc la question qui nous est posée, c'est, ça doit pas être d'interdire les réseaux sociaux pour les jeunes, ça doit être de faire le travail de sensibilisation, de prévention. Je propose qu'on mette enfin les moyens pour avoir des médecins scolaires, des psychologues scolaires. Vous avez une psychologue scolaire pour 1500 élèves. Vous n'êtes pas en mesure, dans ce cas-là, de détecter un sentiment de malaise, un sentiment de déséquilibre, y compris psychologique. Or, c'est bien l'endroit où on peut le détecter. Parce que toutes les autres mesures, elles sont peut-être spectaculaires, mais elles ne fonctionneront pas.
Pas du tout sur cette ligne. Éric Zemmour s'est exprimé à la mi-journée sur ce qu'il faut faire pour combattre les violences à l'école.
Remettre la prison au centre du paysage pénal, ce qu'elle n'est plus, c'est devenu marginal. Supprimer les allocations sociales et expulser des HLM les parents de tous les mineurs délinquants. Expulser tous les délinquants, les criminels étrangers et déchoir de nationalité ces jeunes qui ont souvent la double nationalité franco-algérienne, franco-marocaine et les expulser chez eux.
Mathieu Gallard, directeur d'études chez Ipsos, interdire les téléphones, contrôler l'accès aux réseaux sociaux, que vous en disent les Français?
Alors les Français, déjà, plus généralement, ils font le constat qu'on est dans une société qui est à la fois très violente et qui est de plus en plus violente, donc il y a ce constat qui est clair. En même temps, quand on les interroge sur leur vie quotidienne, le sentiment d'être en insécurité, de se sentir en insécurité, il reste relativement contenu et surtout il est très stable en fait au fil des années, voire même au fil des décennies. Mais néanmoins, c'est vrai que dans le contexte de faits divers qui se déroulent dans le contexte scolaire ou dans d'autres types de contextes qui se sont un petit peu multipliés ou en tout cas qui ont été très visibles dans les dernières années, on a des Français qui sont très favorables à des mesures qui vont vers plus de fermeté et donc c'est vrai que ces mesures-là, elles vont dans le sens de ce que veulent l'opinion. Mais là encore, il y a une certaine ambivalence parce que quand vous creusez, quand vous demandez aux Français si les différentes mesures qui ont été citées, elles sont réalistes, est-ce que le gouvernement pourra les mettre en place? Ou est-ce qu'elles seront efficaces? Est-ce que véritablement elles auront un impact? Elles réduiront la violence? Là, les Français sont beaucoup plus mitigés et pensent que finalement, ça ne suffira pas forcément. Donc vous voyez que les choses sont quand même assez compliquées. Il y a quand même le sentiment que beaucoup d'hommes politiques se précipitent un peu sur ces faits divers avec des annonces chocs, mais qui répondront pas forcément aux enjeux du moment.
Pour les trois quarts des Français, comme le révèle une étude de vos confrères de Doxa, pour le Figaro, il s'agit d'un fait de société, dans la mesure où il illustre la montée de la violence des jeunes dans tout le pays. À l'inverse, seulement 22% des Français considèrent que cette agression est un fait divers, donc on ne peut pas en tirer des conclusions. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, voilà, non, mais ça reflète un peu ce que je vous disais, le sentiment qui est massif quand même dans la population, qu'on est dans une société où la montée de la violence, et là, la montée de la violence dans le milieu scolaire, mais pas seulement, c'est une réalité forte, très prégnante, que les dirigeants politiques doivent absolument affronter. Mais ce qu'il manque aux yeux des Français, c'est finalement une réponse plus globale, une réponse qui sans doute alliera à la fois des mesures de fermeté en matière de mesures très concrètes, en matière aussi pénale, et puis sans doute des mesures aussi sociales, parce que sur cet aspect-là, ce qu'on voit dans les sondages, c'est là encore que les Français veulent un petit peu que les dirigeants politiques marchent sur les deux pieds. Donc il y a sans doute encore du travail pour convaincre les Français. français sur ces enjeux.
Merci pour ces analyses et commentaires, Mathieu Gallard, directeur d'études chez Ipsos, Institut de sondage Ipsos. C'était Dimanche Politique, à retrouver sur l'application et bien sûr sur le site internet de Radio France Internationale.